Il nous faut maintenant aborder la justice plus objective, la justice qui règne dans un groupe, dans une société, et qui est en réalité toujours rattachée à une ou à des lois que la société s'est données. Enfreindre ces lois est chose grave, puisque en le faisant, nous mettons en péril l'équilibre et l'harmonie de la société dans laquelle nous sommes. Et donc, la société, par l'intermédiaire des tribunaux, des juges, va nous corriger, va nous réprimander et va nous punir pour que nous n'ayons aucune envie de recommencer à enfreindre ces lois. Autrement dit, ces lois protègent la société elle-même, mais elles protègent aussi, en principe, suivant les sociétés, la liberté individuelle. Elles permettent, elles devraient permettre à chacun de pouvoir vivre librement et harmonieusement avec les autres individus composant la société. Cette nécessité d'avoir des lois et de s'y référer pour une vie en société ne date pas d'hier. Le premier arrêté de tribunal qui est connu dans l'histoire de l'humanité remonte à l'époque sumérienne. Cette époque se situe à la fin du 4e millénaire avant Jésus. Elle s'est éteinte, la période sumérienne, vers le 21e ou 20e siècle avant Jésus-Christ. La justice, ainsi que la loi et l'éthique, furent des concepts fondamentaux dans l'antique Sumer. On peut imaginer que dans des sociétés beaucoup plus anciennes, remontant presque à la préhistoire, on réglait aussi les conflits, car ceux-ci menaçaient la cohésion du groupe et donc allaient affaiblir le groupe par rapport à d'autres groupes potentiellement ennemis. Il devait y avoir, peut-être pas des règles très précises, mais un ordre certain qui, je pense la plupart du temps, devait être un peu la loi du plus fort qui s'imposait. Il y avait de fait des attitudes qui n'étaient pas permises, des attitudes qui étaient dangereuses pour le groupe et qui certainement, d'une manière ou d'une autre, devaient être réprimandées. Cette justice juridique est donc davantage objective que le simple sentiment personnel d'injustice que nous pouvons avoir, parce qu'elle se réfère à des textes qui sont précis. Mais se repose une autre question, à savoir que ces lois varient d'une société à l'autre. L'exemple des États-Unis est très frappant à cet égard. Nous sommes dans la même société, à la même époque, et pourtant, lorsque nous passons d'un État à un autre État, les lois sont différentes, parfois même elles s'opposent. Je pense par exemple à l'avortement. Dans un État, il va être autorisé, dans l'État voisin, il est interdit et peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Comment comprendre qu'un même acte soit ainsi appréhendé et jugé différemment? Cela, en tout cas, ne donne pas l'impression que les lois et la justice qui en découlent soient issues de vérités universelles. Elles sont donc relatives et cela ne fait pas grandir, je dirais, la confiance que nous pouvons accorder à ces lois. Par ailleurs, on constate aussi que dans une même société, ces lois varient d'une époque à l'autre. Elles ne sont donc pas, nous pourrions dire, rationnelles fondées sur un certain nombre de principes, elles ne sont pas forcément toujours le fruit d'une réflexion profonde sur l'homme et sur la société. Je prends un exemple, le fait de tuer quelqu'un est, en temps de paix, un acte très grave qui est réprimandé fortement. Mais lorsque la même société se trouve en état de guerre, le fait de tuer est au contraire récompensé. Et plus vous tuez d'ennemis, plus vous aurez de médailles sur la poitrine. Et pourtant, le fait est le même, vous avez tué une vie ou plusieurs vies. Et l'on voit que l'acte n'est pas jugé de la même manière en fonction du contexte dans lequel il peut se produire. La justice est donc fluctuante et ses applications vont varier selon les coutumes, les traditions, les structures sociales. Nous parlons donc ici d'une justice dans son sens juridique et on parle alors d'actes qui sont légaux ou illégaux. Mais il y a une distinction à faire entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Car là alors, nous passons à une autre justice. Ça n'est plus la justice juridique du code pénal, et c'est la justice morale par rapport à une loi morale qui n'est d'ailleurs pas toujours forcément écrite dans le marbre.
Étienne Dallaire.
Dans l'Antiquité, la justice était distinguée entre deux concepts différents, le droit et la morale. La justice légale était donc du côté du droit, mais la justice morale avait également son importance. Le fait de distinguer les deux va parfois provoquer des conflits, parce que une loi de l'État auquel j'appartiens peut être en contradiction avec une loi d'une morale à laquelle j'adhère. Par exemple, les religions, en général, sont assorties d'une certaine morale. Attention, il ne faut pas réduire la religion à une morale, ça c'est une catastrophe. Mais dans l'attitude religieuse, dans l'attitude du croyant, il y a des implications dans la vie de tous les jours et donc des implications de type moral. C'est tout à fait évident, par exemple, dans le judéo-christianisme, quand on se réfère à la loi donnée par Moïse, eh bien, on trouve des articles qui relèvent de la morale. Tu ne tueras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages, tu ne voleras pas, etc. Si je me réfère à une morale qui découle peut-être de ma foi, je peux parfois être mis en contradiction avec la loi juridique. Autrement dit, il est possible à un moment donné, heureusement les cas sont relativement rares, mais que la loi juridique de mon pays soit illégitime aux yeux de la morale qui m'habite. Et cela va provoquer en moi un conflit intérieur important. À qui, à quoi dois-je obéir ? Je prends un exemple, évidemment c'est souvent dans des situations un peu extrêmes, mais pendant la dernière guerre, les Allemands demandaient que l'on dénonce la présence de tout juif. Ça, c'était la loi juridique de l'époque. Ma loi morale, si j'étais chrétien, par exemple, m'interdisait de faire une chose pareille et de livrer des innocents à une justice qui n'avait plus de justice que le nom.
Assise au coin du feu, je rêve d'un Noël merveilleux. Je pense à autrefois, à la douceur de ces nuits où nous étions tous réunis. La neige sur les toits, les bougies et les chocolats. Dans ma chambre d'enfant, la maison endormie, je sombrais lentement dans un sommeil léger. Mes rêves étaient peuplés des poupées. À Noël brille comme avant. Décembre, apporte-moi toujours comme autrefois des Noëls avec ce que j'aime.
Agir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière, Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 00 12.
34 centimes la minute.
Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 00 12.
0892 46 00 12.
Le standard des auditeurs.
Connaissance et témoignage. Connaissance et témoignage reçoit aujourd'hui Anne Bernet. Anne Bernet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes écrivain, historienne, journaliste. Nos auditeurs vous connaissent également puisqu'on peut vous entendre sur nos ondes lors de votre émission Histoire à contre-courant.
Et connaissance et témoignage de temps à autre.
Aussi. Vous avez, Actualité oblige, écrit dernièrement un petit article sur les âmes du purgatoire. On n'en entend pas tant parler que ça, en fait, sur cette période de la Toussaint, des défunts. C'est pas le sujet le plus abordé.
C'est le grand problème de notre époque. On ne parle plus de ce que l'Église appelait les fins dernières, autrement dit la destinée éternelle des âmes, le paradis, l'enfer ou le purgatoire. Par conséquent, des millions de défunts sont tranquillement abandonnés dans les flammes expiatoires du purgatoire où ils attendent le secours de proches, d'amis ou d'inconnus qui, comme l'Église n'en parle plus, ne leur viendra jamais, faisant que leur période de purification s'éternise, c'est le cas de le dire.
S'éternise. Alors pour autant, il y a quand même tous les dimanches notre prière où, au moment de l'Eucharistie, on va prier pour les défunts. Lorsqu'une personne vient de décéder, il est fréquent aussi d'offrir des messes.
Il est tout à fait normal d'offrir des messes. Une seule, d'ailleurs, ne saurait suffire, car autrefois, l'Église enseignait que la participation d'un défunt aux âmes offertes en sa faveur est exactement proportionnelle à sa piété personnelle, à sa participation à la messe. Donc, quelqu'un qui a très peu pratiqué, une seule messe ne suffira pas à le tirer du purgatoire.
Donc, il en faut beaucoup.
Autrefois, Saint Grégoire le Grand avait institué au 5e siècle, début du 6e, ce qu'on appelle toujours le Trentin Grégorien, c'est-à-dire 30 messes récitées d'affilée par le même prêtre. Grégoire avait eu cette pensée après avoir vu, il était encore moine à l'époque, un moine de son monastère mort en désobéissant à la règle puisqu'il avait caché de l'argent. Donc manqué à son vœu de pauvreté. Et Grégoire avait eu l'intuition que pour le sauver et l'emmener au ciel, il lui fallait offrir 30 messes d'affilée, ce qui était un don gigantesque. L'immensité du sacrifice eucharistique étant telle que 30 messes ne pouvaient que délivrer une âme. C'est donc ce qu'on appelle le Trentin Grégorien, et qu'il est, dans la mesure du possible, excellent d'offrir pour un mort.
Justement, dans votre article, vous mentionnez cette amitié profonde entre deux hommes où l'un promet de donner des messes, justement.
Pas n'importe quels hommes, il s'agit de Saint Jean Bosco et d'un de ses amis prêtres. Et oui, il est normal de promettre de faire célébrer des messes pour un ami. Ce qui est intéressant dans le cas de Jean Bosco, c'est que cet ami meurt en fin d'après-midi. Donc, Don Bosco a déjà célébré sa messe. Il remet la promesse au lendemain, mais dans la nuit, le défunt lui apparaît, lui reproche en larmes de l'abandonner depuis si longtemps dans les flammes du purgatoire. Don Bosco lui répond abasourdi, mais il n'y a pas 12 heures que vous êtes mort. Et l'autre, complètement stupéfait, il a l'impression d'être là depuis des siècles. C'est toute la problématique, c'est que le propre de l'éternité, c'est qu'il n'y a plus de temps. Donc, quelques minutes semblent très très longues. Un capucin italien contemporain a fait une expérience de mort imminente. Il racontait dans Aletheia Italie qu'il s'était retrouvé devant le trône de Dieu et qu'il lui avait dit « Tu n'as pas mérité un purgatoire très long, je t'en impose 2 heures ». Il se frotte les mains en se disant « Je savais que c'était un bon père, 2 heures, c'est vite passé ». Sauf que quand il revient à la vie, il dit « C'est épouvantable, 2 heures de purgatoire, on n'imagine pas ce que ça dure ».
Donc oui, cette notion de temps qui est...
Qui disparaît tout simplement.
Ça pose beaucoup de questions sur... moi, d'une certaine façon, je suis effectivement bien traversée par mon époque, parce que cette question du purgatoire, Oui, bien sûr, je sais ce que c'est, mais c'est pas quelque chose sur lequel on a l'habitude, finalement, de s'étendre.
Malheureusement.
Malheureusement,
nous n'irons pas tous au paradis directement. Je ne dirais peut-être pas, comme Sainte Thérèse d'Avila, que la seule personne, Thérèse d'Avila avait des lumières sur le sort éternel de ses proches, que la seule personne qu'elle avait vue monter directement au paradis, c'était Saint-Pierre d'Alcantara, ce qui n'a absolument rien de rassurant, parce que Saint-Pierre d'Alcantara, c'est une vie de pénitence absolument abominable, dont personne n'aurait le courage d'affronter les rigueurs. Donc, on va tous se retrouver au purgatoire pour une raison très simple, c'est que, sauf rares exceptions ou grâces particulières, aucun d'entre nous ne mérite de se retrouver avec ses fautes, ses petits arrangements avec le ciel, directement dans la gloire divine, confrontés à la lumière éternelle. Et c'est une grande grâce de Dieu de permettre qu'en dépit de tout, nous puissions passer par une période d'expiation et de nettoyage, une sorte de pressing céleste qui nous permet en effet d'entrer dans la salle de banquet avec la robe de noces parfaitement immaculée.
Mais il faut passer par un temps qui est un temps éternel presque.
Cela dit, on peut faire en sorte aussi de mener une vie aussi parfaite que possible et d'arriver à son lit de mort, à un état de grâce suffisant pour y échapper. Un autre contemporain, beaucoup plus jeune, le bienheureux Carlo Acutis, disait, il est mort à 15 ans, même pas, qu'il avait fait en sorte de vivre jusqu'au dernier instant pour être admis directement au ciel et ne pas passer par le purgatoire. Mais les derniers jours de Carlo Acutis, qui est mort d'un cancer foudroyant, furent épouvantables. Il a tout offert justement pour s'épargner ce purgatoire et pour sauver les âmes des prêtres. Il faut savoir ce que coûte le rachat d'une âme, à commencer par la nôtre.
Et pour autant, alors je vous parlais des saints, puisque les saints, c'est des personnes qui ont essayé d'avoir une vie la plus droite qui soit, qui n'étaient pas vierges de tout péché.
Le saint pêche 7 fois par jour.
Mais n'empêche, on peut avoir cette intercession des saints auprès de nous dans notre vie aujourd'hui, ce qui veut dire qu'ils ont déjà approché le règne de Dieu.
Les saints sont au paradis, sans ça ils ne seraient pas saints.
Voilà. Et ça a été un purgatoire moins long, on peut imaginer.
On peut supposer que la plupart des saints sont entrés directement au paradis. C'est bien d'ailleurs pourquoi on s'assure, l'Église s'assure pour une béatification, une canonisation, que le serviteur ou la servante de Dieu se trouve bien auprès de Dieu en lui demandant de faire un miracle. C'est propre même de la chose, fais un miracle, comme ça tu donneras la preuve que tu n'es pas au purgatoire, ni en enfer.
D'ailleurs, d'accord. Dans cette anecdote dont vous parliez précédemment de Jean Bosco, il y a eu cette apparition, en fait, de cet ami qui était au purgatoire et qui est venu intercéder auprès de lui.
Qui est venu demander son intercession. Mais ce n'était pas la première fois. Don Bosco, jeune séminariste, avait commis l'imprudence avec son meilleur ami, séminariste lui aussi, l'abbé Ramolo, de se promettre mutuellement, au cas où l'un d'entre eux décéderait, de revenir pour dire à son ami s'il était ou non sauvé. Et la nuit qui suit la mort de l'abbé Romolo, quelques semaines avant leur ordination, tout le séminaire est réveillé par un chahut absolument épouvantable, et l'on entend une voix qui crie à travers le dortoir des séminaristes « Bosco, Bosco, je suis sauvé !» C'est l'abbé Romolo qui est revenu de l'au-delà. Ça donne à tous une peur salutaire. Ils se souviennent qu'on ne doit pas essayer à aucun prix de communiquer avec les défunts. L'Église l'interdit formellement pour des raisons de sagesse évidentes. Le diable s'en mêle trop souvent, plus souvent que Dieu ne permet des apparitions de défunts. Cela dit, quelques très grands saints ont eu des visions d'âmes revenues soit du paradis, soit du purgatoire, pour évoquer leur sort éternel, demander un service aux vivants ou demander des prières pour sortir du purgatoire.
D'accord. Donc, aujourd'hui, ça m'est arrivé d'entendre des personnes dire, bon, dans le fond, à quoi ça sert ces messes? Est-ce que ça a tant de sens que ça? Oui, ça a du sens de donner des messes.
Ça a un double sens. D'abord, il faut se souvenir que le sacrifice eucharistique est d'une valeur infinie. Donc, dire qu'une messe ne sert à rien, c'est en quelque sorte dire que la croix et la mort du Seigneur n'ont aucune valeur. Il faut se souvenir qu'une seule goutte de sang du Christ aurait suffi à racheter l'humanité entière, et ce n'est pas une goutte qu'il a donnée. Et par ailleurs, le fait de l'appliquer, ce sang en particulier, à une âme du purgatoire, c'est en effet la certitude d'adoucir ses souffrances et de raccourcir sa période d'expiation.
Tout simplement. D'accord.
No!
Vous évoquez les cinq qui ont eu des apparitions. Y en a-t-il eu d'autres? Et dans quelles circonstances?
Il y en a eu un certain nombre dans l'histoire de l'Église et très tôt. La première affirmation dans une vie de saint de l'existence du purgatoire est extrêmement remarquable puisque nous sommes au printemps 204 à Carthage, en la Tunisie moderne, où un groupe de chrétiens et de néophytes, pas encore baptisés, des catéchistes, des catéchumènes, se sont retrouvés emprisonnés pour crime de christianisme, et parmi eux une jeune femme de 22 ans de la grande société romaine de la région, Vibia Perpetua, Sainte Perpétue, qui souffre beaucoup d'avoir été séparée de son bébé nouveau-né qu'elle allait. Elle est extrêmement malheureuse et elle offre tout cela pour le salut des âmes en attendant un martyr qui se produira le 7 mars suivant. Et une nuit, Perpétue a une vision tout à fait extraordinaire. Elle le dit elle-même, j'avais presque oublié l'existence de mon petit frère Dynamios, qui était mort à 7 ans d'un cancer du visage. Et je ne me souciais plus du tout de cet enfant que j'avais si peu connu, mais qui était mon frère selon la chair. Et elle raconte que dans cette vision, elle voit son petit frère, le visage toujours mangé par la maladie qui l'a tué, dans un endroit sombre, brûlant, épouvantable, où il supplie désespérément qu'on lui donne à boire. Et Perpétue comprend que son frère, qui n'a pas été baptisé, elle est la seule chrétienne de sa famille, que son frère qui n'a pas été baptisé la supplie d'intercéder pour lui. Et Perpétue va offrir ses souffrances qui sont terribles, cette séparation d'avec son bébé qui est une torture pire que les autres, pour sauver son frère. Et quelques nuits plus tard, elle a une seconde apparition, elle voit son frère dans un jardin. Et il n'y a plus de ténèbres, il y a un grand bassin avec de l'eau, mais Dynamios est trop petit pour atteindre l'eau. Et elle continue de prier. Et quelques nuits après, la veille du supplice de Perpétue, elle voit son frère dans ce jardin magnifique, assis au bord de la fontaine, qui boit à grandes goulées dans une coupe en or. Il s'abreuve à la source de vie. Ses blessures sont guéries. Il rayonne. Elle a sauvé son frère. Il est au ciel. C'est la première mention. Il en existe dans l'Ancien Testament, puisque Judas Maccabée raconte comment il a demandé des sacrifices au temple pour ses soldats morts au combat contre les Philistins. Or, comme le font remarquer tous les théologiens, si le purgatoire n'existait pas, il serait inutile de demander des sacrifices ou des messes pour les défunts, puisque leur sort éternel serait réglé d'emblée, l'enfer ou le ciel. Ce n'est donc pas le cas. Il existe un état intermédiaire, un état et non un lieu, car ni le paradis, ni l'enfer, ni le purgatoire ne sont des lieux, au sens propre du terme, sont bien des états de grâce ou de disgrâce. Et cette certitude est donc très ancienne. Quand certains historiens ont prétendu dans les années 70-80 que le purgatoire était une invention médiévale, une sorte de moyen pour l'Église d'exploiter les fidèles en leur arrachant des messes, c'est absolument faux. La notion de purgatoire est très antérieure. Elle existe déjà dans le judaïsme et elle s'affirme dès la plus haute antiquité chrétienne. Par la suite, nous avons de nombreux saints qui vont avoir des contacts avec les âmes du purgatoire, plus ou moins apaisées, plus ou moins heureux, plus ou moins tendres. Nous avons le cas d'une carmélite du XVIe siècle, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, qui est florentine. Madeleine de Pazzi, c'est une mystique. Sa vie est entourée de phénomènes absolument extraordinaires. Et un jour, dans une extase, elle voit son frère se promener dans le jardin du couvent, qui bien entendu est fermé aux hommes. Son frère est mort depuis quelques années. Il a été tué en duel. Et Il lui dit en sanglotant qu'il est, sauvé malgré ses péchés de grand seigneur florentin qui a mené une vie de patachon et qui de surcroît est mort en état de péché mortel. Et il lui demande des prières. Et imperturbable, Marie-Madeleine lui répond « Bien sûr, mon frère, je prierai pour toi, mais au lieu de te plaindre comme tu le fais, tu ferais mieux de remercier le ciel de t'avoir sauvé, c'était pas gagné. » Ce qui est exact, elle n'a pas tort. Comme le disait un mystique, combien devrait être grande la reconnaissance de ceux qui se retrouvent au purgatoire quand ils ont mille fois mérité l'enfer. Il y a un autre cas qui est extrêmement impressionnant dans le même ordre d'idées, c'est celui de Marguerite Marie à la Coque, la célèbre messagère du Sacré-Cœur, visitant Digne à Paray-le-Monial à la fin du XVIIe siècle. Alors la vie de Marguerite Marie, c'est une vie de pénitence, de souffrance, d'offrande pour le rachat des âmes. Et sa pire expérience en ce domaine, c'est le jour où elle voit lui apparaître un prêtre entouré de flammes, extrêmement impressionnant, qui a l'air de brûler de l'intérieur et qui la supplie de prendre sur elle une partie de ses souffrances expiatoires. Il lui explique qu'il était bénédictin, qu'il a gravement manqué à la règle bénédictine, qu'il était prêtre, qu'il n'a jamais offert le sacrifice de la messe comme il aurait dû, qu'il a été sauvé par miracle, mais qu'il subit un purgatoire particulièrement cruel, et qu'elle seule peut l'en délivrer. Mais il faut pour cela qu'elle accepte de partager ses souffrances avec lui pendant une durée indéterminée. Avec la permission de sa supérieure, Marguerite Marie accepte. Pendant 3 mois, elle va être accompagnée de cette ombre qu'elle est la seule à voir, qui brûle de partout, qui souffre, qui jeint, et elle partage ses souffrances, et elle les partage d'une manière tellement aiguë que elle, qui a l'habitude de souffrir, dira « j'ai jamais souffert comme ça ». Et enfin, au bout de 3 mois, le bénédictin lui apparaît une dernière fois, il est délivré de ce feu qui le brûlait, il rayonne, il la remercie, il s'envole vers le ciel, les souffrances de Marguerite Marie s'interrompent avec les siennes. Et nous avons des cas moins impressionnants, je pense à une religieuse morte en odeur de sainteté à Lyon en 1924, sœur Marie de l'Eucharistie, qui avait eu des visions de la Sainte Vierge, des apparitions dans les années 1880, des visions d'ailleurs totalement oubliées aujourd'hui. Mais sœur Marie de l'Eucharistie, lorsqu'elle arrive dans son couvent pour la première fois, la supérieure lui fait visiter la chapelle et elle lui dit « Mais ma mère, qui est cette religieuse là-bas dans le coin qui a l'air tellement affligée et qui tient un grand mouchoir devant elle comme si elle pleurait ?» La supérieure ne voit absolument personne, mais elle sait très bien que quelques semaines plus tôt, une des sœurs est morte, qu'elle souffrait d'une maladie qui fait qu'elle bavait sans interruption et que donc elle gardait toujours un grand mouchoir devant elle. Et elle se dit « C'est elle qui revient et qui vient demander des messes. » Et elle va faire célébrer les messes en question. Et sœur Marie de l'Eucharistie lui dira « Je ne la vois plus, elle est donc repartie. » Et oui, cette âme consolée s'en est allée.
Donc tous ces récits, en fait, sont des récits d'apparition auprès de personnes d'aujourd'hui ou d'hier, mais qui avaient déjà une foi très ardente.
Évidemment, ça arrivera moins sûrement à des gens qui ne croient pas. Mais je reparlais de Carlo Acutis, qui tout petit garçon, alors qu'il a 5 ou 6 ans, qui ne connaît pas la notion théologique du purgatoire, perd son grand-père. Il est très affligé. Et une nuit, il voit son grand-père lui apparaître, en rêve, qui lui dit qu'il est au purgatoire, et qui lui demande des prières. Et il dit « Grand-père est au purgatoire ». Et ses parents sont très étonnés. Ils disent « Comment tu connais ce mot-là, Carlo ?» Parce que grand-père m'en a parlé.
Donc c'est aussi la démarche, peut-être, on ne le sait pas, hein, mais cette possibilité qui a été offerte aussi d'une certaine façon à certaines âmes du purgatoire à pouvoir venir solliciter.
Oui, c'est une grâce de pouvoir solliciter les suffrages, comme on disait, des vivants.
Les suffrages, on parlait.
Des vivants et de l'Église.
D'accord. Alors si vous êtes venu témoigner aujourd'hui, ce n'est pas innocent non plus, c'est parce qu'on est au mois de novembre et c'est un mois tout à fait particulier dans cette communauté.
C'est le mois des défunts, effectivement. Autrefois, l'Église demandait des prières tout au long du mois pour les âmes du purgatoire. Cela dit, il est bien de prier pour les âmes du purgatoire au mois de novembre, puisque la visite d'un cimetière dans la semaine suivant la Toussaint permet d'obtenir des indulgences, c'est-à-dire de reporter nos mérites sur eux pour abréger leur purgatoire ou pour les délivrer. Mais il est encore meilleur de penser à eux toute l'année et de ne pas oublier d'offrir des messes et de prier pour eux en toutes occasions.
Anne Bernet, merci.
Merci à vous.
Présence.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.
Au ras des pâquerettes, Étienne Dallaire.
Je vous invite à cheminer à travers les grandes questions de la vie et de la foi, mais aussi à travers les petites questions du quotidien, vous savez, celles qui nous font avancer sans en avoir l'air. Dans mon émission, Au ras des pâquerettes.
Au ras des pâquerettes, tout l'été, du lundi au vendredi à 5h30, 13h10 et 19h. Intégrale le dimanche à 22h.
Oh, Keo. Domitéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On continue avec ce chapitre 2 de l'article 9 qui parle de l'origine, la fondation et la mission de l'Église. Alors, on a vu dans les émissions précédentes la préfiguration de l'Église, ensuite la préparation de l'Église. Et on arrive aujourd'hui au numéro 763 avec l'institution de l'Église par le Christ Jésus. Pourquoi le Fils, le Christ, a autorité pour réaliser définitivement ce projet de Dieu de réaliser une Église?
Le Christ a l'autorité que le Père lui a donnée, qui est l'autorité de Dieu lui-même, puisque le Fils est Dieu. Il y a d'abord eu les prophètes qui avaient seulement mission de parler au nom de Dieu. Et c'est directement la source même de la divinité qui nous parle, puisque le Père parle par le Fils et il rend présent son Fils quand, au moment du baptême, il y a cette théophanie où Jésus descend dans le Jourdain. Eh bien, il y a la colombe de l'Esprit qui atteste que c'est bien Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, mais aussi la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et pareil, au moment du Tabor, au moment de la Transfiguration, il y a cette même voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc Jésus a l'exousia, comme dit les textes du Nouveau Testament, c'est-à-dire l'autorité pour parler au nom du Père. C'est le Père lui-même qui l'a dit à Jésus. Et donc cette autorité va lui permettre d'exercer sa mission et d'instituer l'Église. C'est ça, le grand moment de Saint Marc, par exemple, au chapitre 3, verset 14, où il nous dit que le Christ a époyessène, c'est-à-dire a fait de ses disciples des apôtres. Il a choisi 12 et il les a constitués, il les a institués. C'est comme le verbe créer, hein, c'est très beau le verbe créer, c'est Dieu qui fait les choses de rien. Eh bien, dans la traduction donc grecque de l'Ancien Testament, pour le verbe bara, la Septante, donc la traduction grecque de l'Ancien Testament, dit que bara, c'est époyessène, c'est-à-dire il a fait, il a créé. Eh bien, on retrouve exactement le même verbe en Marc chapitre 3, verset 14, où le Seigneur a fait ce groupe, a rassemblé ce groupe et l'a stabilisé, l'a établi. Et il nomme à ce moment-là les 12 pour être avec lui d'abord, et puis pour recevoir leur mission. Mais d'abord pour être avec lui. C'est très important, ce premier moment de communion. Le Père veut établir la communion avec les hommes, et il commence tout de suite par exercer le terme, c'est-à-dire la communion. Jésus a d'abord établi la communion avec ses apôtres, et leur a donné la mission. Marc, donc 3,14. C'est cette institution de l'Église qui a donné aux apôtres une participation à l'exousia du Christ, c'est-à-dire à son autorité. Et quand Jésus dit au moment de la résurrection, « Comme le Père m'a envoyé en Jean chapitre 20, moi aussi je vous envoie », on comprend bien qu'il y a une délégation de cette autorité. Et donc cette institution est tout à fait fondamentale, ce qui a donné à l'Église un droit d'institution. L'Église peut instituer des nouveaux diocèses, des nouvelles églises particulières, elle peut aussi légiférer, elle a tout un code de législation, et cette institution est donc absolument radicale et relève de l'institution même que le Christ a fait depuis l'origine. Donc nous devons revenir sans cesse à ces textes, je dirais, fondamentaux pour bien comprendre la grandeur de ce moment. Il appartient au Fils de réaliser dans la plénitude des temps le plan de salut de son Père. C'est là le motif de sa mission, on vient d'en parler, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Seigneur Jésus posa le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis les siècles. Mmh. C'est donc à travers la thématique du règne de Dieu que Jésus va commencer à rassembler autour de lui ses disciples, ses apôtres, qui sont déjà le règne de Dieu commençant.
On peut faire un lien entre royaume de Dieu et Église ?
Oui, tout à fait. Il est convenu, d'après les textes du Nouveau Testament, de comprendre que l'Église, c'est le royaume de Dieu déjà commencé. Et bien sûr, on pourrait s'étonner en disant, mais on voit beaucoup de péchés, beaucoup de pécheurs dans l'Église. Alors c'est vrai que l'Église rassemble des personnes qui ne sont pas encore saintes, mais qui sont appelées à travers les purifications nécessaires à la sainteté. Et alors parfois, malheureusement, il faut attendre le purgatoire pour que les choses se fassent. On souhaiterait qu'il y ait plus de saints pour que l'Église soit plus visible d'emblée et que ce royaume de Dieu apparaisse plus visiblement, plus nettement, selon le fait que Dieu, déjà dans le Lévitique au chapitre 19, disait « Soyez saints, car moi je suis saint ». Eh bien, cette parole est répétée sans cesse par le Nouveau Testament. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et saint Pierre, dans sa première épître, reprend cette parole « Soyez saints, car le Seigneur lui-même est saint ». Et nous avons donc à comprendre que c'est une institution de sainteté. La finalité de l'Église, comme nous disions dans l'émission précédente, c'est bien la sainteté. Je ne dois pas décoller un seul instant de ce désir de sainteté et ne pas voir l'institution d'une manière sociologique, purement humaine. Et sinon, je perds complètement la dimension invisible. Il y a une dimension visible, comme notre Seigneur a accepté une dimension visible de son humanité. Son corps était accessible, était visible, ses habits, sa façon de faire, de parler, etc. Tout cela, c'était accessible au sens. Il était visible, mais il y avait cette dimension invisible. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu, deuxième personne de la Trinité. Et donc, l'Église, pareillement, qui prolonge la vie du Christ, a cette double dimension à la fois visible et institutionnel, je dirais, au niveau palpable, mais il y a une institution aussi dans les cieux, puisque ce que nous lions sur la terre est lié au ciel, et il y a donc une Église invisible, une Église au ciel, qui est là, qui est constituée des anges et des saints, et qui nous attend dans la gloire.
Donc il n'y a pas de raison d'être déçu, comme cette phrase connu de Loisy qui disait on attendait le royaume de Dieu puis on a eu que l'Église ou voilà que l'Église nous est donnée.
Effectivement, c'est une horrible parole qui vient d'ailleurs du protestantisme dans son attaque contre l'Église catholique qui a été traitée à l'époque de Martin Luther, surnommé Luther en abréviation du mot Eleutheros parce qu'il voulait se libérer de l'Église et qui considérait l'Église catholique comme une prostituée, comme une mauvaise fille et qui n'avait pas vraiment accompli ce royaume de Dieu. Eh bien, c'est une illusion d'optique, c'est oublier que la pâte de notre humanité est pécheresse et c'est une transformation progressive qui se passe, je dirais, génération après génération, homme après homme, et donc tout n'est pas donné, ce n'est pas un progrès, je dirais, ascensionnel, comme si on arrivait nécessairement à ce que l'Église soit de plus en plus belle à mesure que les siècles passent, c'est une ascension progressive de génération en génération. Il faut que des hommes se convertissent. C'est la prophétie de Jonas. Si Ninive ne se convertit pas, dans 30 jours, elle sera détruite. Donc ces annonces ont eu lieu tout du long dans les étapes précédentes de préparation prophétique, etc. C'est la même vérité qui atteint l'Église aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des saints et seule la sainteté fait rayonner pleinement l'Église.
Au numéro 763, il est bien rappelé que l'Église est le règne du Christ déjà mystérieusement présent. Tu le disais tout à l'heure aussi. Mais donc, plutôt que de se dire il doit y avoir une erreur, l'Église n'est pas le royaume, ça serait plutôt à nous de changer notre regard sur notre Église.
Exactement.
Et d'essayer d'y trouver ce royaume du Christ.
Exactement. Je me souviens un jour, un journaliste s'amusait à titiller Mère Teresa de Calcutta, qui a été canonisée depuis. Et je disais, mais c'est pas possible, il y a telle et telle chose dans l'Église, ça ne va pas, etc. Mère Teresa, qu'est-ce que vous ne voyez pas qu'il faudrait tout changer? Et Mère Teresa a dit, oui, d'accord, mais la première chose, c'est à vous changer, vous et moi. Le changement commence non pas par une espèce de gargarisme de mots extérieurs, mais par un changement personnel. Et si celui qui parle de changement continue à déraper au niveau moral, c'est pas du tout un prophète de changement, c'est un prophète d'enfouissement dans le péché et de dérapage collectif et général.
Je pense qu'on peut rester sur cette image cette rencontre de se rappeler, d'essayer de faire l'effort de mieux regarder notre Église et d'y voir toute la lumière qu'elle nous apporte et toute la beauté qu'elle porte en elle-même.
Et voilà. Par exemple, au début du numéro 764, c'est toujours d'actualité, le royaume brille aux yeux des hommes dans la parole. La parole, elle est proclamée, elle est accessible à tout le monde, c'est l'Évangile sans cesse proclamé dans les églises. Les œuvres, il y a les œuvres de charité, il y a tous les charismes dans l'Église, toutes les communions, je dirais, religieuses, et la présence du Christ. On a la présence du Christ à la messe et dans le Saint-Sacrement de l'autel, on peut venir l'adorer. Donc, vous voyez, ce numéro 4 qui est donné de Lumen Gentium, numéro 5 du numéro 764, est toujours d'actualité.
Merci, frère Edouard.
Merci beaucoup, à bientôt.
À très bientôt.
Bonjour, c'est André de Chabannes. Pour écouter le meilleur du jazz, du blues, les toutes dernières sorties d'albums, retrouvez-moi pour ce grand moment d'émotion dans Jazz à tous les étages.
Jazz à tous les étages, cet été, le samedi à 22h et le dimanche, 23h.